16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec celui qui contredit la légende, selon laquelle légende télé prendrait forcément la grosse tête un jour. Lui passe encore fort bien les portes.
Oui, mais ça demande un peu de souplesse.
Oui, il est quand même très connu. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Si j'étais vous, c'est vos chevilles et votre tête que je surveillerais, Mathieu.
C'est vrai.
C'est néanmoins toujours un plaisir de vous retrouver pour deux heures d'histoire drôle. Enfin, je veux dire, d'histoire
oui.
À la sauce drôle.
À la sauce drôle.
Volatique. À la rencontre de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui avaient un point commun. Est-il facile à identifier aujourd'hui ce point commun? Si je vous dis Rabelais, Frédéric Dard et Aya Nakamura.
Ils ont un nom rigolo.
Mieux, Mathieu. Ils ont fait comme les inconnus. Ils se sont dit...
Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime.
Et ils l'ont fait, oui. Ils ont inventé des mots. À commencer par le premier, François Rabelais, qui dès le début du XVIe siècle a étoffé le français de nombreux mots et expressions rabelaisiennes dans ses écrits remplis de personnages gargantuesques. Lui, c'est dans ses livres qu'il a inventé des mots, des néologismes. Frédéric Dard, le père du roman de gare et de San Antonio, dont on célèbre les 100 ans de sa naissance, est une œuvre époustahurissante. Enfin, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un personnage plus vivant, plus contemporain, qui est aussi un vent des mots qu'on ne retient pas.
Oui, Stéphane, si je vous dis...
Oh, Georgia.
Ou encore...
Bla, 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 okay. Ferme la porte à la poupie dans le slice.
Vous vous dites, pauvre France, je sais, c'est votre côté réac, c'était mieux avant, mais ce sont surtout des trouvailles sémantiques de la chanteuse Aya Nakamura, idole des jeunes, qui s'approprie largement ces néologismes qu'on retrouvera peut-être un jour dans le Petit Larousse.
Horrible.
C'est votre avis Stéphane, je tenterai pour ma part d'être moins obtus. Avec nous en studio, comme chaque après-midi, c'est vrai qu'ils sont souvent...
décadents et même obscènes.
Mais on les aime quand même, ce sont nos chroniqueurs, nos fouineurs de l'histoire.
Oui, elle nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde. Elle adore tout ce qui est un peu glauque, un peu sulfureux, beaucoup sexuel.
Oui, elle s'en défend.
C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Que vous allez reconnaître. Bah, et elle va évidemment.
Imaginez son thème du jour. Clémentine.
Ok. Oui, bonjour, messieurs. Oui, c'est vrai, c'est mon mot du jour. Un petit mot qui en dit long, le mot orgie.
On est choqués. Ouais,
Vous connaissez cette réplique, qu'on apporte les tripes de sanglier frites dans la graisse du russe. C'est une réplique du gouverneur romain Gracchus Garovirus dans Astérix et les Helvètes. Eh oui, c'est ça. C'est un personnage décadent qui organise des orgies de fondue au fromage dans son palais. Mais l'orgie, messieurs, par bonheur, ça n'est pas que la débauche alimentaire, c'est aussi la débauche sexuelle.
J'espère bien. Lui, en matière de débauche sexuelle, il en connaît un rayon.
Il a souvent mal au crâne.
Souvent. Pour se rattraper, il pourra aller mieux, se requinquer, il prend une petite aspirine.
C'est la transition
qu'on vous offre, David, débrouillez-vous avec ça. Bonjour David Castello-Lopez.
Oui, tout à fait, j'ai plus rien à ajouter, je vais vous faire les origines de l'aspirine, ce médicament qui nous a tant aidé.
Olivier Pouls est avec nous, notre expert gastronomique.
On va parler d'un légume dont on a souvent parlé.
Et je sais que vous l'aimez particulièrement, un peu un hommage pour vous. Je sais que vous aimez les belles aubergines bien huilées.
Il l'aime sous forme d'émoji, il l'utilise souvent en émoji.
Stéphane, l'aubergine en émoji et pour vous en caviar, parce que je sais que vous aimez bien le caviar.
Ah, le caviar d'aubergine.
Mais pas d'aubergine.
Moi j'adore le caviar d'aubergine.
C'est moins cher, mais j'aime moins.
Qu'on appelle en grec melizana salata. Il faut bien les faire griller, vous savez.
Je vais vous donner un truc incroyable.
Ah, génial.
Oui, je vous rappelle, Stéphane, qu'on est toujours dans le sommaire de l'émission. Pour l'instant, on n'entre pas dans le cœur des chroniques, même si on a très envie de passer la table.
Vous savez quoi? On donne envie.
Ah, bah oui, là, on donne envie. C'est le moment de l'émission où Stéphane peut briller et étaler crânement son insolente culture historique. C'est souvent durant cette séquence qu'on réalise à quel point les connaissances de Stéphane sont non seulement nombreuses, mais surtout extrêmement précises, à quelques millénaires près.
Les australopithèques remontent à très très loin.
Burn to be alive, notre impitoyable quiz, ce sera dans le tour de 5h moins 10, vous apprendrez des choses très précises à quelques millénaires près. Mais tout de suite, découvrons sans plus tarder notre premier inventeur de mots. Il est si célèbre que son nom est devenu un adjectif qui sert à décrire les mœurs d'Olivier Pouls. Stéphane Bern nous raconte, Rabelais.
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Enchaînez les kilomètres. Grimper des cols en haute montagne, répéter inlassablement les efforts,
Chaque jour, les coureurs de l'équipe Total Energy donnent le meilleur d'eux-mêmes. Chez Total Energy, nous savons que nos clients font aussi des efforts au quotidien pour réduire leur consommation d'énergie et leurs factures. C'est pour ça que nous leur proposons des offres sur l'électricité et le gaz jusqu'à 10% moins cher et des services pour mieux consommer. Rejoignez-nous au 3099 ou sur totalenergy.fr. Service et appel gratuit, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Carrefour, quand les températures grimpent, on n'a qu'une seule envie, c'est de se rafraîchir avec des... Ou alors plus pratique, avec une bonne glace.
Moi aussi j'en veux bien une.
Alors pour tous ceux qui ont un peu trop chaud, vous allez être contents d'apprendre que jusqu'à lundi, avec 30% de remise immédiate sur le deuxième paquet de 6 cônes glacés vanille fraise Carrefour Extra, les 12 cônes sont à 3,28€ seulement chez Carrefour et Carrefour Market.
Carrefour. 404 grammes, détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il y a ceux qui ne connaissent qu'un seul mot.
Voilà, voilà, voilà.
Et ceux, comme lui, qui en connaissent des milliers et surtout qui en inventent de nouveaux. Stéphane nous offre la quintessence de ses recherches sur François Rabelais dans un récit qui sera, espérons-le, sans anicroche.
Quintessence, anicroche, du Rabelais dans le texte. Et j'imagine, sans faire exprès, Mathieu, le français, comme oui. Toute langue, évolue constamment. Parmi ceux qui l'ont magnifié, bien avant Molière, qui en est devenu le porte-drapeau, il est en effet un personnage à part, François Rabelais, aujourd'hui considéré comme l'auteur à qui notre langue doit le plus de mots. Grand pourvoyeur de néologismes, Rabelais a étoffé le français avec un certain génie, ça tombe bien, le mot est de lui, et nous a laissé nombre de mots en héritage. Comment a-t-il pu être si innovant ? Cela tient sûrement de sa personne autant que de son époque. Probablement né vers 1494 dans un milieu bourgeois en Touraine, nous connaissons peu de choses de la vie de Rabelais avant qu'il ne s'engage dans les ordres monastiques dans les années 1520. Nous sommes alors dans l'effervescence de la Renaissance. Parti d'Italie, un élan culturel favorisé par l'imprimerie s'est étendu à l'Europe et s'incarne notamment dans l'humanisme, mouvement de pensée qui redécouvre les langues et cultures antiques et envisage une nouvelle approche de la connaissance, de la religion, des arts et du monde en général. L'époque de Rabelais est donc celle d'un dynamisme intellectuel qui s'ébroue dans un environnement linguistique bien éloigné du nôtre, laissant toute la place à son inventivité. L'idiome du savoir et de sa transmission reste le latin. Cette langue survivante, qui a bien changé depuis la Rome antique, demeure celle que lisent et écrivent les élites. Mais tous les lettrés sont polyglottes, à l'image de la France elle-même, et parlent aussi des langues vernaculaires. Le français en est une parmi la multitude des langues, Doyle au nord, Doc au sud. Et puisqu'il est la langue du roi à l'époque François Ier, le français est donc la langue du royaume étant à s'y développer. Au début du XVIe siècle, 90% des publications sont encore en latin. Mais le français ne cesse de s'affirmer à l'écrit. En 1539, le premier dictionnaire est publié. La même année, vous connaissez évidemment cette date importante dans notre histoire, ce sont les ordonnances de Villers-Cotterêts qui imposent le français dans les actes administratifs. Et d'ailleurs, le château de Villers-Cotterêts sera bientôt entièrement restauré et dédié à la francophonie.
Magnifique.
En cette décennie de 1530, après avoir rompu ses vœux pour étudier à l'université de Montpellier, l'une des plus anciennes de France, rappelons-le, Rabelais est désormais médecin à Lyon, où en plus de soigner, il écrit notamment ses deux célèbres ouvrages, Pantagruel, publié en 1532, et Gargantua, deux ans plus tard. Ces récits narrant la vie de deux géants sont à la fois des contes merveilleux et des romans d'apprentissage comico-satiriques foisonnant de personnages qui ponctuent les aventures des deux héros éponymes. Héros qui incarnent l'idéal d'un homme complet, nourri autant par l'humanisme que les grivois et populaires plaisirs de la vie. Les aventures se poursuivront dans trois autres livres entre 1546 et la mort de Rabelais en 1553. Ses ouvrages, du moins les deux premiers, Rabelais les signe sous le pseudonyme d'Alcofribas Nazier, son anagramme. Compliqué, vous en conviendrez. Une facétie tout sauf anodine. Elle le protège des condamnations de la puissante université de la Sorbonne qui veille à tout ce qu'elle pourrait juger licencieux. Une façon aussi de distinguer son travail scientifique rédigé en latin de sa création romanesque qui, elle, s'écrit en français. Ce français non encore codifié, malléable, qu'il va explorer, agrémenter en mettant à profit son érudite créativité pour lui donner forme et substance. Entendons-nous, néologiser ne signifie pas forcément créer des mots à partir de rien.
Rabelais connaît les langages qui l'entourent. Il identifie des carences, des possibilités, il extrapole, il adapte et laisse les mots se former. Il invente, par exemple, en se basant sur le latin. Ainsi, les mots tergiversés, de tergiversaris, qui signifie en latin tourner le dos, ou encore célèbre, issu de célébris, utilisé en latin classique pour parler d'un lieu fréquenté par une foule nombreuse. Mais les exemples sont innombrables, Mathieu. Fort de ses connaissances encyclopédiques, tiens, c'est un autre mot de lui, Rabelais crée aussi à partir du grec, par exemple, les mots automate, alter, sans H à l'époque, ou encore panique, dérivé du nom du dieu Pan. Oui. Il francise d'autres langues, comme l'italien, qu'il connaît, pour avoir voyagé dans la péninsule, et en tire par exemple les mots balle, caresse ou torticolis. L'œuvre de Rabelais est d'une densité insondable. Les mots se succèdent dans une joyeuse outrance, des énumérations sans fin, des descriptions exhaustives et des cohortes d'adverbes ou d'adjectifs. Il emprunte et dérive avec une grande liberté, crée des mots imagés. Ainsi, se prélasser vient du mot prélat et sous-entend pour Rabelais marcher en se donnant un air important. Et il ne se borne pas aux Français de Paris et de la cour. Il pioche dans les parlers locaux les mots qui lui semblent utiles. Il adapte par exemple le mot badaud du provençal, auquel il prend aussi le mot esclaffé, qui signifie éclater, frapper fort, pour le tourner dans le sens de s'esclaffer de rire. C'est marrant, non ?
C'est hilarant, mais surtout c'est stupéfiant de voir le nombre de mots qu'il a inventé.
Et le rire, justement, est important, pour ce qu'il est le propre de l'homme, écrit-il dans l'avant-propos de Gargantua. Rabelais est médecin, un savant, mais il est surtout un rigolard, héritier du rire populaire médiéval, carnavalesque, paillard et même scatologique. Ses héros ne cessent de boire et ripailler, ça vient du château de Ripaille, entre quelques flatulences. Rabelais est aussi l'héritier d'un humour antique et savant qui s'exhibe dans les acrobaties verbales. Ainsi s'en prend-il, à la fin de Pantagruel, aux hypocrites qui ne pensent qu'à nuire, articulant, monarticulant, torticulant, cultant, couitant, diabliculant, c'est-à-dire calumniant. On aura ainsi saisi la truculence de la répétition de la syllabe Q, déclinée avec brio dans la fabrication de ces adverbes. Ce court exemple montre aussi qu'au-delà des mots rabelaisiens qui demeurent aujourd'hui, ce qui prouve leur pertinence et leur utilité, il y a tous les autres, et ils sont nombreux.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Ils ont inventé des mots, c'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi, et lui, le premier, Rabelais, l'écrivain humaniste de la Renaissance, à qui on doit Gargantua, a laissé à la langue française un étonnant nombre de mots apparus sous sa plume imaginative, et vous nous disiez Stéphane qu'au-delà des mots qui nous sont restés, on note aussi la bouillonnante fantaisie de la langue rabelaisienne.
Oui, si l'on emploie toujours indigène, guttural, athlétique, factice, frugal, patriotique, oh je m'arrête là, je pourrais continuer bien plus longtemps, les néologistes se trouvent par centaines, si c'était par milliers dans les œuvres de Rabelais, et beaucoup ne connaîtront qu'une seule occurrence. C'est d'ailleurs ce qui rend la lecture parfois aussi difficile qu'exaltante. La langue, pour Rabelais, n'est pas qu'un instrument de communication, elle est un jeu et un infini champ des possibles. Et il puise dans les langues anciennes étrangères, techniques, savantes et régionales, pour former un français nouveau, dont on peut même se demander si tout le monde le comprenait. En effet, s'il eut l'occasion de s'instruire, de voyager et d'être confronté à de nombreux parlers locaux, ce n'est pas forcément le cas de tous ceux qui le lisent. Son vocabulaire est d'une telle richesse qu'il faut faire l'effort de se laisser aller aux évocations, aux connotations, à la dimension métaphorique des sons. Il faut un esprit aussi ouvert que son lexique pour le comprendre. Rabelais explore plus qu'il ne normalise, il propose une langue plus qu'il ne la fonde. D'autres grands esprits de son siècle suivront, du Bellay, Ronsard, Dora et leurs amis de la Pléiade continueront d'inventer le français pour le hisser au rang des langues classiques avant que le XVIIe siècle et l'académisme ne viennent le sanctuariser, l'emprisonner, diraient certains, en fixant le vocabulaire, la syntaxe et la grammaire. Selon les plus récentes études, environ 500 mots attestés pour la première fois sous la plume de Rabelais font aujourd'hui partie de notre vocabulaire. Étrangement, pourrait-on penser, lui qui passe à son temps à inventer des mots, il n'a pas pensé au mot néologisme qui n'émerge qu'au XVIIIe siècle. Cela traduit sûrement sa vision d'une langue qui n'a pas de limite. À quoi bon caractériser ce qui est nouveau alors que tout est en construction et en train d'advenir ? Pour Rabelais, tout est possible. Et c'est à la fois le passé, le présent et l'avenir de la langue française que l'on peut lire dans ce qu'il écrit.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Rabelais, nous sommes avec la linguiste Aurore Vincenti. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Bonjour Vincenti, vous êtes l'auteur du livre « Les mots du bitume » de Rabelais au rappeur, petit dictionnaire de la langue de la rue, publié aux éditions Le Robert. Avant de faire le pont entre Rabelais et le rap, déjà, dites-nous comment vous, en tant que linguiste, vous appréhendez Rabelais. C'est un père, c'est un savant, un inventeur de la langue française ?
Oui, c'est un inventeur de la langue française. Un père, peut-être pas. J'en ai un, j'ai le mien.
Non, je veux dire un père de la langue. Est-ce qu'on peut dire le père de la langue française ? Parce qu'on dit souvent, à propos de la langue française, la langue de Molière, mais en fait, c'est celle de Rabelais.
Ah, alors là, c'est un grand débat. En français, contrairement à la langue anglaise, par exemple, où Shakespeare a joué cette fonction tutélaire de père absolu, de père unique, de dieu presque sur la langue, en français, on a plusieurs pères. Rabelais fait partie, en effet, de cette famille. Il y a bien sûr Du Bellaire, Ronsard avec la Pléiade, Montaigne, on peut parler de Molière, puisqu'on parle en effet de la langue de Molière quand on évoque le français. La particularité de Rabelais, je dirais, c'est que déjà, il arrive assez tôt, historiquement, à cette période où il y a un renouveau de la langue et où on se met à mettre en concurrence le latin et le français, et où le français gagne en pouvoir, en puissance dans l'espace public, dans l'espace politique. Et puis surtout, il fait les choses, c'est un scientifique, hein, c'est un médecin, c'est aussi un moine, c'est un intellectuel en somme, mais il le fait avec énormément d'esprit de rigolade, je dirais. Donc à la fois du sérieux, mais un rire que les autres certainement n'auront pas, ou en tout cas pas de la même façon.
Alors, Aurore Vincenti, on a évalué à 500 le nombre de mots trouvés pour la première fois sous la plume de Rabelais. Est-ce qu'on sait combien sont entrés définitivement dans notre vocabulaire courant ? Est-ce que vous avez des exemples ?
Oui, je peux vous donner des exemples. Déjà, c'est intéressant de voir qu'il a emprunté des mots. Il y a plusieurs créations verbales, hein, plusieurs façons de créer des mots. Il y a les emprunts, on va chercher dans d'autres langues, notamment le latin, le grec. Ça, c'est... Il y a une grande proportion de mots qui viennent du latin chez Rabelais. Je pense aux mots célèbres, aux mots géants, au mot horaire, mais aussi du grec. Je disais qu'il était médecin et en fait, dans la langue grecque, il est allé chercher pas mal de mots scientifiques, comme le mot larynx, hein, qui désigne cet organe de la voix au niveau de la gorge. Il est allé emprunter des mots à l'italien, à l'espagnol, à l'hébreu. Bon, alors ça, c'est les emprunts, mais il y a aussi les dérivés, c'est-à-dire des mots qu'il va constituer à partir de mots qui existent déjà en français. Je pense au verbe escrimer, s'escrimer à faire quelque chose, ça vient du mot escrime, mais lui, il a forgé le verbe. Il y a aussi des créations avec des associations de mots. Vous prenez le mot sainte et le mot nitouche, vous les mettez ensemble, ça donne sainte nitouche, et ça, c'est typiquement rabelaisien. Donc, des créations, il y en a des quantités, et j'oublie une chose qui est assez importante, c'est qu'il est allé chercher aussi dans les parlers régionaux, aujourd'hui ce qu'on appellerait le français régional, des mots comme des verbes comme s'esclaffer, comme le verbe rappeler, peut-être pour réparer le fameux farfadet qui est un lutin, tout ça, ça venait déjà de France et des parlers de France.
Dans votre livre, Aurore, vous recommandez vivement la lecture d'un passage de Gargantua sur la recherche du meilleur torche-cul. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce passage ?
J'aime bien que vous employiez le verbe toucher à propos de ce passage et du torche-cul. Alors, qu'est-ce qui m'a particulièrement plu, je dirais ? En fait, il mène une recherche scientifique, c'est Gargantua qui dit, voilà, qui fait de minutieuses recherches pour trouver de façon scientifique le meilleur torche-cul, donc le meilleur outil pour s'essuyer les fesses. Et là, il dresse une grande liste typiquement rabelaisienne, avec toute cette abondance qu'il caractérise, en disant, bah voilà, j'ai essayé le cache-nez en velours, je me suis torché le cul avec un chat qui m'a ulcéré le périnée de ses griffes, il utilise les gants de sa mère, il utilise du fenouil et des orties, et il finit par aboutir à une conclusion très scientifique. Après toutes ces études, il désigne un excellent torche-cul que je ne vous dévoilerai bien sûr pas, puisque vous avez envie de lire le passage. Il faut le lire. Et là-dedans, et ce qui est intéressant d'un point de vue langagier et linguistique, c'est tous ces jeux de mots, notamment sur le mot cul. Et c'est ça aussi la créativité en langue.
Vous affirmez que Rabelais foutait vraiment le zbeul d'une façon très festive et rieuse. C'est quoi le zbeul pour nos auditeurs et pour moi aussi, parce que
oui, avouez-le, Stéphane. Oui.
Alors, c'est pas un mot rabelaisien du tout, c'est un mot issu de l'arabe, mais là aussi on parle d'emprunt. Rabelais faisait des emprunts aux langues étrangères. Là, en l'occurrence, belle, c'est la poubelle, c'est les déchets. Et foutre le zbeul, c'est mettre le désordre. C'est un désordre assez festif. J'ai envie de dire carnavalesque, puisqu'on parle de Rabelais et que c'est un mot qui a souvent été employé à son égard. L'idée idée du renversement des valeurs, que tout à coup, ce qui est sale va devenir noble, ce qui est du bas du corps, ce qui relève du bas du corps, va devenir extrêmement joyeux et précieux. Et c'est ce renversement-là, en effet, c'est festif, c'est un désordre gay. Voilà.
Eh bien, on va continuer à parler de nos personnages qui ont inventé des mots, et de Rabelais en particulier, avec notre invité Aurore Vincenti sur Europe 1. A tout de suite.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Et voilà, votre enfant a encore cassé ses lunettes. Et chez Atoll, on sait que les lunettes, c'est comme les doudous. Il vaut mieux en avoir deux. Alors chez Atoll, nous vous proposons la seconde paire à 1 euro. Atoll, mon opticien. Voir conditions sur opticien-atoll.com. Offre valable jusqu'au 30 septembre. Dispositif médical CE.
Les super-héros, c'est bien. Les super-affaires Poltron et Sofa, c'est encore mieux. Poltron et Sofa vous fait profiter de super remises de 50% jusqu'à 75% sur tous nos canapés. La semaine des super-affaires, c'est jusqu'au samedi 17 juillet. Pas un jour de plus. Poltron et Sofa, a Authentica Qualita. Et voilà. Qualité authentique, vérifiez disponibilité et conditions en magasin.
La nouvelle saison des trains pas comme les autres arrive sur France 5. Pendant tout l'été, Philippe Googler partage ses balades et ses rencontres à bord de trains typiques au cœur d'un pays. Demain, direction la Croatie. Des trains pas comme les autres, à 20h50 sur France 5, en partenariat avec Europe 1.
Conforama, le confort pour tous.
Et voilà, encore un service gagnant.
Vivez à fond, dormez à fond, avec moins 50% sur le matelas Maman Cool Mérinos, 140 cm à 369,50€.
Conforama, jusqu'au 26 juillet, conditions sur conforama.fr.
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Ils ont inventé des mots, c'est notre thème cet après-midi dans Historiquement vôtre. On parle évidemment de Rabelais, un des pères de la langue française, on le rappelait avec notre invité Aurore Vincenti, qui a publié « Les mots du bitume de Rabelais au rappeur, petit dictionnaire de la langue de la rue ». Alors Aurore, c'est quoi la filiation entre les rappeurs et Rabelais? Et s'il y a du Rabelais dans le rap français, où est-ce que vous le voyez?
Je le vois dans l'énergie que les rappeurs déploient à créer du verbe, à imposer des mots, à aller les chercher dans la rue et à les diffuser largement. Ce n'est pas, bien sûr, on ne peut pas parler de filiation directe. Je pense qu'on peut parler d'une énergie commune à tous ces créateurs de langues au fil des siècles. Je remonte à Rabelais puisqu'il y a ce côté... Il y a ce côté humoristique, grossier parfois chez Rabelais qu'on retrouve dans le rap avec une certaine dose de ce qu'on pourrait appeler de la vulgarité, parler de sexe, parler parfois d'avoir des propos scatologiques. Tout ça, on retrouve cette même énergie. Et voilà, dans l'idée que la langue est vivante, qu'elle est mouvante et qu'il y a la possibilité de créer du verbe. Bien sûr, il y a la poésie. Mais dans le rap, il y a cette énergie un peu transgressive, du verbe argotique, qu'on retrouve des Rabelais et que j'aime particulièrement.
Mmh. Oui, c'est ça. C'est au fond, chez Rabelais, le côté ludique, cette façon d'appréhender, de déformer, de réinventer la langue et de jouer avec les mots. C'est aussi ça, et ce qu'on retrouve peut-être chez les rappeurs.
Oui, c'est ça, c'est la dimension ludique, et puis c'est la grande liberté avec laquelle il aborde, justement, je vous parlais de dériver, l'idée de prendre un mot et d'en tirer un autre mot, l'idée de transformer les mots. Par exemple, prenez le verlan, qui est un procédé de langue qui existe déjà depuis un moment, que Renaud a beaucoup employé en son temps, que les rappeurs continuent d'utiliser aujourd'hui. Typiquement, ça c'est une façon de jouer avec la langue, qu'on ne retrouve pas chez Rabelais, c'est pas aussi ancien, mais Rabelais, dans sa façon de dériver des mots, de trouver, de former des mots à partir de mots déjà existants. C'est le même type de procédé de création verbale, de jeu de mots.
On faisait la comparaison avec les rappeurs. Booba, le duc préféré de Stéphane, a cette façon de sublimer les choses crues. Ça a même été théorisé par la très prestigieuse Nouvelle Revue Française sous le nom de Métagore.
Chez toi, y'a Anguille sous Rose, chez moi, y'a qu'à la Soundra. Quand la route tourne que je t'encule, j'appelle ça le Kamasutra. T'as beau faire du MMA, je vais te faire bouffer ton RSA. Tu n'y l'as pas, mais j'étais là. T'as 6 étoiles, non, j'étais A.
Stéphane est en train de groover dans le studio, Aurore, mais petite explication de texte, il y a pour vous cette même créativité finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous disiez tout à l'heure quelque chose vraiment qui m'a marqué, c'est que chez Rabelais, on voit avec la distance du temps le côté, on voit l'humour en fait. Chez les rappeurs, parfois, on les attaque en imaginant que ce qu'ils disent, c'est au premier degré, alors que peut-être on gagnerait à les écouter pour leur humour finalement. Ils peuvent être au second degré aussi, les rappeurs.
Oui, c'est une chose à laquelle je tiens particulièrement. Je pense qu'il faut, c'est aussi, enfin, c'est le privilège de la distance et du temps qui passe. Rabelais, on le regarde avec quelques siècles qui nous séparent et on arrive à faire preuve d'humour quand on le lit. Les rappeurs sont un peu plus proches de nous et quand on ne fait pas partie de ce monde-là ou des auditeurs habitués à cette langue et à cet art-là, quand on commence à étudier la langue et cette langue-là en particulier, ces textes-là, on comprend hein, qu'il y a beaucoup d'humour. Moi, je vois aussi beaucoup de jeux de mots. Là, cette façon de jouer avec l'expression « il y a anguille sous roche » chez Booba, et de la modifier en disant il y a calache sous le drap, il tire l'expression dans son univers à lui. J'y vois déjà une intelligence, une façon de jouer avec les structures figées de la langue. Hein. On peut dire qu'une expression, c'est figé. Il y a anguille sous roche, tout le monde le dit comme ça, on ne le dit pas autrement. Et donc, prendre cette liberté-là, c'est aussi un signe de création. Je vous parlais de Sainte-Nitouche, très typiquement, qui est une création de Rabelais avec sainte d'un côté, sainte n'y touche, il ne faut pas y toucher, une sainte à laquelle on ne touche pas. Et là, Booba, dans une certaine mesure, fait la même chose. Il prend le karma d'un côté, le karma qui est l'idée de cette roue qui tourne, et le Kama Sutra de l'autre, il crée le Karma Sutra. C'est exactement la même façon de procéder. Alors après, on peut donner plus de valeur à la Sainte Nitouche qu'au Karma Sutra, et ça vous regarde, je vous laisse vous...
Elles sont même contradictoires, si vous voulez, c'est... Ou vous faites le Karma Sutra, ou vous faites la Sainte Nitouche, mais...
C'est ça.
Merci, Vincenti, d'avoir fait le pont entre Seth Gecko, Booba et Rabelais avec nous, et au passage, d'avoir augmenté ma street credibility. Oui. Je rappelle, pour nos auditeurs, votre livre très intéressant, « Les mots du bitume » de Rabelais au rappeur, petit dictionnaire de la langue de la rue, et c'est publié aux éditions Le Robert. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci à vous deux.
Europe 1, historiquement vôtre.
À suivre, elle aussi, on la décrit souvent comme rabelaisienne. Il est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de mettre le doigt sur des choses qui pourraient effrayer d'autres historiens.
C'est un phallus de cuir.
Clémentine Portier-Kaltenbach nous entraîne toujours dans l'intimité des grandes semences. Aujourd'hui, elle a choisi un mot. Elle aussi un mot et un seul. Orgie.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires dont un seul mot suffit à comprendre de quoi il s'agit. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, on va se faire voir chez les Grecs, puisque vous nous parlez d'un mot grec qui en dit long, orgie.
Ben oui, bien sûr. Je vais vous parler d'étymologie. Qu'est-ce que vous croyez?
Ne vous faites
aucune illusion.
Sérieux.
Le mot « orgie » vient du grec ancien, signifiant « faire les actes sacrés » ou « être transporté ». À l'origine, en tout cas, ça désigne les fêtes de Dionysos. Dionysos, grec,
de
chez les Romains, c'est... Mathieu?
Comment ça?
Chez les Romains, comment s'appelle Dionysos?
Bacchus, bravo.
Alors, c'est exactement Dieu du vin, de
les
la vie.
Les plaisirs, de la vie.
Exactement, Stéphane, on voit qu'il vient en Grèce depuis longtemps. Faut pas lui en compter sur les orgies. Bon, enfin, l'orgie à l'origine est une fête religieuse féminine. Ce sont des cortèges nocturnes, et oui, de femmes à demi nues, enivrées par la drogue ou la boisson. Catulle, qui a écrit beaucoup de trucs assez cochons dans ses chants d'hiver, les a décrits. Ces femmes qui portent une baguette phallique. Et oui, le tirse, c'est l'emblème de Dionysos, le dieu du vin. C'est une sorte de sceptre en bois orné de feuilles de lierre et surmonté d'une pomme de pin. Donc les femmes défilent avec ce symbole phallique, le tirse, et puis il y en a d'autres qui portent des morceaux de sexe de taureau. Bien sûr.
Le vrai sexe de taureau.
Oui, bien sûr. Et avec le temps, les mystères ont dégénéré en sexualité de groupe. D'autant plus que le motif profond de toute cette agitation sacrée, ça se passe à l'entrée de l'hiver. C'est l'idée de symboliser la survie de l'espèce et de la nature, la permanence de la fécondité. Alors voilà, on se trémousse, on prend son tirse et des morceaux de sexe de taureau et on défile nuitamment. Bon, alors dans la tradition grecque, cela dit, ne participent aux orgies que des hommes, des musiciens, des danseuses, des prostituées. Et ça se termine en complète bacchanale. C'est pas des parties fines, c'est vraiment
c'est
plutôt des...
Alors
c'est des banquets indécents, c'est réservé à une certaine catégorie. Et les Romains vont adopter ces habitudes, mais certains d'eux sont très très choqués. Par exemple, Juvénal, qui est un moraliste romain, explique qu'est-ce que c'est que ce truc où des femmes font l'amour au son de la flûte et poussent des ululements. Il est extrêmement choqué. Et d'ailleurs, chez les Romains, dans un premier temps, ça va surtout être des fêtes de gastronomiques. En fait, on mange. Il y a le fameux Vitellius le glouton. Il a pour la table une passion ignorante et insatiable. Il mange 4 fois par jour et il se fait vomir. Il a de qui tenir parce que son père, Lucius, se délectait naguère d'un miel mélangé à la salive de sa maîtresse. C'est pas beau, ça, hein?
Non. Je sais pas si c'est beau. Non, je sais pas.
Ça nous excite pas vraiment, oui.
Non, pas vraiment. Mais Stéphane, on est très prudes.
Ah, moi, je trouve ça beau, hein, l'empereur romain qui mélange la salive de sa maîtresse à du miel. Moi, je... Il y a Héliogabale aussi, dont le règne est un perpétuel banquet. Agape de l'après-midi jusqu'au petit matin. 22 services, entrecoupés de baignades et de parties fines. Alors, ce qu'on mange...
Ils ne bossaient jamais, les...
Non, bah non, ils se prélassaient, comme les rois fainéants. Sabots de chameau, crête de coq, langue de rossignol, cervelle d'autruche. Et parfois lui-même circule nu entre les lits dans un petit char traîné par d'énormes chiens ou par des courtisanes. Il y a des scènes obscènes ciselées dans la vaisselle. Bon, il faut avoir la santé. Hein, c'est... Mais à part les orgies romaines, cette espèce de mythologie de l'indécence, dans notre histoire, à qui est-elle attachée? Qu'est-ce qui vous vient en tête quand on parle d'orgie?
Hein, c'est les... À part le banquet de Platon, des orgies. Ah bah oui, moi, ça, trop... c'est Astérix.
Dans l'histoire récente, vous voulez
dire? Non, mais de l'histoire longue. Non, de l'histoire longue. Les orgies, c'est les Romains. Puis c'est les bourgeois, les Borgias, les Valois, et puis la cour du régent. Hein.
Ah oui, César, que la fête commence.
Ben oui, César Borgia, lui, quand sa femme se marie, il organise, c'est le 31 octobre 1501, la fête des châtaignes, ou fête des 50, qui a lieu dans les appartements de César Borgia au Vatican. Mais oui, donc là, il y avait 50 filles de joie. À la fin du repas, elles se mettent toutes nues. On pose au sol des chandeliers allumés et on jette des châtaignes. Et les prostituées soit se baissent pour ramasser les châtaignes, soit se marchent sur les mains et prennent les châtaignes avec la bouche. Il y a tout sur une table, une grande table, on pose des objets qui seront des trophées. Et ceux qui feront le plus l'amour à ces courtisanes gagneront des cadeaux. Alors ça, c'est raconté par un certain Burchard, un Allemand, qui était des maîtres des cérémonies vaticanes. Lui, il parle de connaître charnellement des courtisanes, tu parles. Au mariage de Catherine de Médicis et Henri II, c'est quand même un mariage très catholique et très convenable. Eh bien, pas du tout. Il y a une fête le soir même, 28 au 29 octobre 1533. Tout était permis et tout fut accompli. Voilà ce que c'est que les orgies. Oui. Évidemment, le chef de tout ça, c'est le régent, parce que lui, c'est à la fois la grande bouffe, l'orgie. Et vous en avez déjà parlé. Et vous savez, il donnait à ses copains d'orgie des noms d'aliments. Il surnommait Madame de Parabère, mon gigot ou mon aloyau. Et le comte de Nocé était surnommé Brachmardus. Alors, voyons, ayons tout de même une petite pensée pour Héliogabale, nageant dans ses roses. Et Brachmardus, qui portèrent bien haut le flambeau des fêtes orgiaques dans l'histoire de l'humanité.
Mais pour une sainte touche, vous êtes bien lâché.
Oui,
merci.
Remarquerez que je n'ai pas fini par Vive la France.
Mais... Oui, mais... Vive Brachmardus. C'est une autre incantation.
Moi, j'aurais pu dire Vive la Gaule dans ce cas-là.
Oh, bravo, Stéphane. Serez-vous aussi brillant dans le quiz?
Ne blessez pas notre pudeur, s'il vous plaît.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Rabelais est à l'honneur cet après-midi dans Historiquement Vôtre. Or, justement, Stéphane, le moment est venu de jouer avec la plus rabelaisienne des historiennes, visiblement amatrice de reconstitution de batailles napoléoniennes un peu particulières.
Visez le trou de mon cul.
Jouons avec pudeur et distinction, s'il vous plaît, à Perne de Biola. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Histoire de la psychanalyse. Oh là. Ça, c'est rare. On vous sent déstabilisé d'entrée. Ça fait trop longtemps que nous n'avons pas évoqué dans ce quiz tonton Sigmund. Freud a défini bon nombre de pulsions, parmi elles, la scopophilie. C'est une attirance refoulée vis-à-vis des insectes. Vrai ou faux?
Je dois avouer que je n'avais jamais entendu ça parlant de Freud.
La scopophilie.
Je connais deux, trois autres...
Et le mot en grec ne vous dit rien, Stéphane? Non.
Il faut peut-être remonter à l'étymologie.
Scopé, c'est ça.
La
scopolamine, non?
Scopo de bois.
Qu'est-ce que c'est que ça? Non, la coprophilie, oui, on connaît ça.
Hélas, oui.
La scopo.
Oh, j'y crois pas du tout.
N'y croyez pas.
Non, j'y crois pas.
Non, moi, ça, non ça, plus, ça, je crois pas.
Mais quand bien même l'attirance des insectes se dirait scopophilie, je pense pas que ce soit un concept.
Ah, ça pourrait être Domitien et ses mouches, hein?
Un jour, on la fera cette chronique, promis, un jour.
Oh je peux vous tromper, mais je crois pas.
Pouvez vous tromper, ça, je vous confirme. Ouais. Mais là, vous dites non.
Vous avez.
Et vous avez raison, Stéphane. Oui, la scopophilie existe. C'est posséder l'autre par le regard. Par exemple, quand James Bond regarde avec ses jumelles Halle Berry qui sort de l'eau sans qu'elle le sache, de bas en haut, c'est de la scopophilie. Suite à cette séquence, une réalisatrice anglaise, Laura Mulvey, prouve que ce regard masculin est omniprésent dans le 7e art. C'est ce qu'on appelle « the male gaze ».
Et oui, moi je subis ça au quotidien dans ce studio.
Bien sûr, je vous comprends. Question numéro 2 pour vous, Clémence. En 1793, année sacrée pour Stéphane Bern, les Républicains sortent un jeu de cartes sans roi, sans reine, ni valet. Mmh. Vrai ou faux ?
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Allez hop, on dégage cette question.
Vous avez gagné !
Attention aux questions trop faciles pour nos experts de l'histoire quand même. Ces cartes sont brevetées par les citoyens Urbain Jaume et Jean Démosthène Dugourc. Les rois et reines sont remplacés par des génies, par exemple celui de l'égalité, des droits et de la paix. Inutile de proposer une belote à Stéphane Bern avec ce jeu, il refusera. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Je sais, Stéphane, que parfois vous faites des manifs incognito dans Paris avec un masque, un bonnet, des lunettes noires et que vous brandissez des pancartes où il est écrit « Police partout, justice nulle part ». Est-ce que cette phrase a plus de 150 ans ?
Je pense qu'elle a 150 ans. Elle date de la Commune de Paris.
Je ne vous en demande pas tant, je vous demande de me dire si elle a plus de 150 ans.
Donc au moins 150
ça pourrait
ans.
Être la, ça pourrait être aussi la Seconde République, Stéphane. Oui, ça pourrait être, ça pourrait être 1848.
Elle a plus de 150 ans. Plus de 150.
Vous avez gagné.
Excellente réponse. Elle a exactement 170 ans cette année. Elle est de Victor Hugo. Elle a été prononcée en 1851, le 8 avril. Hugo, pressant que Louis-Napoléon Bonaparte veut déstabiliser le régime, devant les députés, il s'exclame « Ce gouvernement, je le caractérise d'un mot, police partout, justice nulle part ».
Hein, j'ai quand même dit 1848.
J'ai dit plus de, mais moi j'avais dit plus de 150 ans.
Voilà. Mais moi, c'était moins près.
Ce n'est pas vous qui faites les règles, ce n'est pas vous qui comptabilisez les points, c'est moi.
Oui, mais bon.
Un point pour Sa Majesté Stéphane Bern. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. En 1828, naît Dante Gabriel Rossetti, peintre britannique, écrivain, poète qui a fondé le mouvement du pré-raphaélisme. Les adeptes ont pour modèle, vous l'avez compris, Raphaël. Dante avait un animal qu'il n'arrêtait pas de dessiner, un wombat. Petite particularité de ce marsupial, ses crottes sont fluorescentes. Vrai
oh
ou
non,
faux
oh non,
c'est
écoutez,
une question
non,
vraiment.
Refuse,
c'est la question qui va décider du sort de ce quiz.
Non, ça c'est vraiment perfide.
Mais c'est ainsi.
Et
c'est le hasard
qu'on pose ces questions.
Qui attribue les questions.
Alors, qu'est-ce que c'est ? Rappelez-moi le nom de votre animal.
Vous n'avez jamais vu ? Non, alors le marsupilami n'est pas un animal. Stéphane, le marsupilami n'existe pas. Le marsupilami est une
étonnez-vous de ne pas avoir ce genre de questions.
Les lémuriens, les...
Bon, il a des crottes phosphorescentes, parce que qu'est-ce qu'il boulotte qui pourrait donner rendre ses crottes phosphorescentes ?
Vous allez loin dans l'explication. Je vous demande s'il a des crottes fluorescentes, vraies ou faux. Est-ce que c'est la spécificité du wombat, qui est un animal très mignon.
Mais c'est très joli.
Très joli. Oh,
je suis sûr que oui.
Remarquez, dans la nature, il y a bien des feux follets qui sont...
Moi, je pense que c'est très possible. Je ne vais pas vous induire en erreur.
C'est un animal australien dont les crottes sont fluorescentes parce qu'il boulotterait quoi ? Il y aurait... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh non, alors, peut-être... Bon, écoutez,
histoire
non,
naturelle.
Non.
Vous dites non ?
Non.
Vous avez...
Votre jugeote vous a sauvé. Les crottes ne sont pas fluorescentes, cela n'existe pas. Mais en revanche, elles ont une particularité. Chez le wombat, elles sont carrées, cubiques. C'est un animal qui vit dans les régions montagneuses et pour marquer son territoire, il fait des excréments cubiques. Grâce à leur forme, elles ne roulent pas et le territoire est mieux gardé. Fascinante nature. Question numéro 5. Attention, elle va vous départager, on va aller très vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Charles II d'Orléans était, paraît-il, le plus beau fils de François Ier, qui en avait trois. Charles II d'Orléans, une bien belle vie. Sa mère meurt quand il a 2 ans, la variole le prive d'un œil, mais son caractère est plutôt celui d'un plaisantin. Comment va-t-il mourir à 23 ans ? 3 possibilités. En s'étranglant avec une poire, en se noyant, il avait gardé son armure, ou de la peste. Pourtant, on lui avait dit de ne pas aller dans cette maison.
Moi, je dirais 3, de la peste plutôt.
De la peste est une victoire de Clémentine Portier-Kaltenbach. Il meurt de la peste, Charles II d'Orléans. Comment ? 1545, il est entre Abbeville et Montreuil, dans le Pas-de-Calais. La peste ravage la région. Son appartement ne lui plaît pas. Il va dans une maison où 8 personnes viennent de mourir de la peste. Il n'en fait qu'à sa tête, organise même des batailles de polochons avec les oreillers des chambres des défunts. 5 jours plus tard, il meurt. 2 jours plus tard, c'est le tour de son père, mais lui, de la syphilis. Une bien belle histoire et une bien belle victoire de Clémentine Portier-Kaltenbach, qui n'a pas trébuché sur les crottes des wombats et qui l'a emporté avec Charles II d'Orléans. Bravo, c'est un triomphe.
Europe 1, historiquement vôtre.
C'est l'apanage des grands hommes et femmes de lettres que d'inventer des mots. Rabelais en son temps, Stéphane Bern aujourd'hui, qui, je vous le rappelle, dans cette émission, vous propose plus que des récits palpitants, des récits palpinants. Alors Stéphane, de quel personnage palpinant allez-vous nous parler dans la deuxième heure d'Historiquement Vôtre?
Eh bien Mathieu, après Rabelais, je vous parle d'un autre inventeur de mots qui aurait eu 100 ans cette année. C'est le papa de San Antonio, l'inoubliable Frédéric Dard. Je sais que vous auriez aimé faire son portrait, car oui, vous avez lu tous les San Antonio. Mais c'était pas grave, car je suis sûr que vous avez aussi écouté tous les albums de notre troisième personnage du jour.
Bien sûr Stéphane, chaque soir en rentrant du boulot ou le matin pour me mettre en train, j'ai toujours le réflexe de m'écouter un petit Aya Nakamura. Aime-moi doudou. C'est tellement beau, pourquoi s'en priver ? Mais ce qui m'a intéressé chez l'idole des jeunes, c'est justement son côté machine à néologisme. Aya Nakamura aussi invente constamment des mots dont certains entrent dans le langage courant de ces éponges à nouveautés qu'on appelle les jeunes.
(rire) 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire, sans se la raconter, autour de trois personnages que les siècles séparent mais qu'un point commun relie. Aujourd'hui, trois inventeurs de mots.
Oui Stéphane, trois pionniers de la langue qui excellaient dans l'art de jouer avec les mots, parfois sur les mots. Et Dieu sait que ça n'est pas facile, on en fait souvent l'amer constat dans ce studio lorsque l'un d'entre nous lance un jeu de mots et que les autres tentent de surenchérir.
Il y a aussi de très grands ports, notamment en Corse. Hein.
Ah oui,
Bonifacio, sont des ports de plaisir.
Il y avait les ports de Pau aussi.
Eux ne se contentaient pas de jouer avec les mots, ils en créent de nouveaux, Stéphane.
Oui Mathieu. Après l'incontournable Rabelais, je vous raconte le destin étonnant d'un autre adepte du néologisme plus proche de nous, Frédéric Dard, à qui l'on doit la saga des San Antonio et parce qu'il les plaçait dans ses livres de nombreux nouveaux mots. Et puis, parmi les inventeurs de mots vivants, vous avez choisi Mathieu Aya Nakamura.
Évidemment Stéphane, qui d'autre triomphe aujourd'hui en inventant des mots? Jaja, Pookie, ces néologismes ont déjà intégré le vocabulaire des jeunes. Mais pourquoi ces derniers, lorsqu'ils écoutent Aya Nakamura, s'exclament « j'adore » alors que Stéphane, quand il l'écoute, s'exclame
« je vomis ».
Y aurait-il un fossé générationnel? Est-il encore temps de le combler? Nous tenterons de répondre à toutes ces questions.
Sans oublier nos illustres chroniqueurs, ici présents, David Castel-Lopez, qui remonte aux origines et qui nous raconte justement l'histoire de l'aspirine.
Oui.
Oui.
Et donc l'aspirine, c'est...
Pardon,
on ne sait pas d'où ça vient, enfin vous le savez.
Moi je le sais,
c'est,
je vous le dis.
C'est extrêmement ancien.
Non, c'est pas extrêmement ancien, je peux révéler, hein, c'est le 19e siècle.
Mais comment faisait-on avant l'aspirine? J'ai du mal à l'imaginer. Avec nous également Stéphane, regardez qui voilà. Olivier Pouls.
Avec une recette typiquement grecque, il faut bien le dire quand même. Ou en tout cas du bassin méditerranéen.
Du bassin méditerranéen, oui. Oui. Le caviar d'aubergine, d'où nous vient-il? Et l'aubergine d'ailleurs, d'où nous vient-elle ce délicieux fruit? Car il s'agit d'un fruit.
C'est un fruit.
C'est un fruit. Et dans la catégorie botanique, c'est un fruit. Dans la catégorie culinaire, c'est un légume. Mais voilà.
Et ce qui est bien avec le caviar d'aubergine, c'est que c'est le seul caviar qui est dans mes cordes.
Oui.
Dans mes cordes, l'expression du jour,
c'est bien. C'est dans mes cordes quand on estime qu'on peut faire quelque chose ou qu'on a les moyens de le faire. Une expression à ne pas confondre avec être dans les cordes.
Ah oui, vient de l'univers de la boxe. Oui. Et tout de suite, amoureux de littérature, tendez l'oreille. Car si Stéphane n'a jamais fini à la recherche du temps perdu ni les misérables, il a en revanche dévoré les chefs-d'œuvre de notre deuxième personnage du jour, Baseball à la boule, Grimplat en danseuse, Sucette boulevard ou encore Mets ton doigt où j'ai mon doigt. Stéphane Bern nous raconte l'auteur des San Antonio qui a inventé bien des mots, Frédéric Dard.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Dans sa grande bibliothèque de Tiron-Gardet, les San Antonio sont, avec les livres réservés à un public averti, planqués tout en haut. Des livres qui renferment des milliers de mots nouveaux et d'expressions parfois bizarres. Stéphane Bern nous raconte la folle histoire de leur auteur qui a chahuté et enrichi aussi la langue française, Frédéric Dard.
Quand j'ai besoin d'un mot que ma langue refuse, je l'invente. Voilà qui résume bien la liberté que Frédéric Dard s'est toujours octroyée avec le langage. Quand je dis Frédéric Dard, peut-être s'agit-il en fait de sa créature presque plus célèbre que lui, San Antonio. Ou peut-être de Frédéric Charles, ou encore Léopold Dacera, ou Verne Goudy, Cornel Milk, ou même l'Ange Noir. C'est que tous ces écrivains, j'en oublie sans doute, sont une seule et même personne, Frédéric Dard donc. L'auteur français le plus prolifique du XXe siècle, avec pas moins de 300 romans sous une myriade de noms, même les spécialistes se perdent dans la farandole de ses pseudonymes et la démesure de sa production littéraire. qui n'a d'égal que la créativité de son vocabulaire. Pour Frédéric Dard, néologer, comme il le dit, n'est pas qu'une occasionnelle tentative d'agrémenter le langage, mais une constante marque de son expressivité littéraire. Il a créé à lui tout seul une véritable langue parallèle. Songez, Mathieu, que d'aucuns en ont même tiré des dictionnaires et lui attribuent plus de 10 000 créations de mots. Frédéric Dard est principalement connu pour sa grande série des San Antonio, des romans peut-être trop vite qualifiés de romans de gare. Ce qu'on lit aussi vite qu'on s'en sépare, pas moins de 175 livres qui, pendant 50 ans et jusqu'à la mort de l'auteur en 2000, racontent les aventures du commissaire San Antonio et moult personnages hauts en couleur. Ces ouvrages, que Dard signe du nom de son héros, mêlent la gaudriole aux intrigues policières et constituent le terrain de jeu préféré de l'écrivain pour inventer les mots les plus extravagants. Il s'agit bien sûr d'instiguer du comique, mais pas seulement. Et si les San Antonio furent longtemps déconsidérés, cantonnés à de la paralittérature vulgaire et populaire, il est de bon ton aujourd'hui, et c'est heureux, de réaliser qu'ils offrent une langue extraordinairement imaginative et poétique. Épouse ahurissante, disait San Antonio lui-même. Il serait vain de tenter d'indexer ici des exemples, mais imaginez que chez Dard, on extravague, on gesticrie avec des mots qui volplanent ou écalifourchonnent. Apocope, mauvalise, emprunt, dérivation, troncation, confixation. La nomenclature savante des linguistes trouve partout des exemples qui attestent d'une sorte de système permettant de contrevenir aux règles, modifier l'orthographe et dédoubler les sens. Même les onomatopées de Frédéric Dard sont novatrices et compliquées à prononcer, mais je m'y risque avec Aronnuard Fouy. En revanche, ne me demandez pas ce que ça signifie. La littérature, dit-il, ça ne doit pas être un truc à plat comme un sommier, mais quelque chose qui bondit de ses pages comme un morpion de ses poils. Vous apprécierez la métaphore. Oui. Et si Frédéric Dard parvient à faire bondir la littérature avec autant de brio, c'est d'abord grâce à sa grande culture, marquée par les contes que lui lisait sa grand-mère dans son enfance à Lyon au cours des années 1920. Il développe, comme il le dit lui-même, une boulimie de lecture. Il dévore tous les classiques, notamment Rabelais, qu'il admire, car ils lui permettent de se libérer des carcans de la langue académique. Dard commence par écrire des articles dans les journaux locaux, puis un premier roman publié en 1940 qui passe inaperçu. En 1949, il déménage en région parisienne avec femme et enfants pour tenter sa chance. La même année, il sort le premier San Antonio, qui pastiche la littérature américaine policière en vogue à l'époque, mais se révèle là encore un échec en librairie. L'éditeur Armand de Caro, qui vient de fonder la maison Fleuve Noir, flaire pourtant le potentiel et lui commande de nouveaux ouvrages. Le deuxième, en 1950, est un petit succès. Le troisième, un plus gros. La série est lancée et ne s'arrêtera que 50 ans plus tard. Le rythme était freiné. En moyenne, un opus par trimestre, 3 pages par jour, mais 3 pages tous les jours, aimait à dire l'auteur. Les San Antonio ne sont pas vus comme de la grande littérature. On les achète en gare, au bureau de tabac ou plus tard à la caisse des supermarchés, mais ils se vendent par centaines de milliers et séduisent des générations qui s'esclavent devant les blagues grivoises et se ravissent de l'argot employé à tout bout de champ. Fraises, frimes, frites, gueules, moules à gaufres, poires, tronches, vitrines, tout cela rien que pour désigner le visage. Imaginez qu'il y en a bien plus pour les testicules. En plus de l'argot qui sert de terreau à ses broderies linguistiques, Frédéric Dard produit une langue imagée, des métaphores aussi paillardes que poétiques. Le pénis est un oiseau verseur ou un cyclope à col roulé, les oreilles un tiroir à bêtises et le crâne une boîte à rêves. L'innovation lexicale est un style en soi, où l'imagination l'emporte clairement sur la concision. Le refus des règles est chez Frédéric Dard un comportement social autant que littéraire. De Louis-Ferdinand Céline, un autre de ses auteurs fétiches, Frédéric Dard s'est inspiré pour oraliser la littérature. Il trouble aussi le lecteur en l'invectivant directement dans le texte, parfois avec ironie, parfois avec tendresse. L'auteur, le narrateur et le héros sont une seule et même personne et c'est peut-être cela qui participe à l'engouement et au succès. D'autant que San Antonio vit avec son époque. Il suit les bouleversements et les contestations des années 60 ou la libération sexuelle des années 70. « Je suis un rebelle, disait Frédéric Dard, un anarchiste. Il y a une anarchie dans ma manière d'écrire. » Il apparaît même comme une certaine figure de la contre-culture qui méprise le bourgeois. En Angleterre, on le range aux côtés de Godard au rayon des Français iconoclastes. Car oui, Frédéric Dard est lu en Angleterre, tout comme il est lu en Italie, en Roumanie, en Russie. Il est traduit en plus de 35 langues, même en espéranto. Il est une superstar de l'édition, avec 200 millions d'exemplaires vendus et une fortune à la hauteur de ses dépenses et de sa générosité. Et pas seulement grâce au San Antonio. Dans les années 50, Frédéric Dard adapte avec succès un roman de Simenon au théâtre et travaillera toute sa vie à une trentaine de pièces, en plus d'une bonne vingtaine de scénarios ou dialogues pour le cinéma, de dizaines d'articles et préfaces, ainsi que d'autres dizaines de nouvelles, romans noirs, psychologiques ou plus conventionnels. Le tout, je vous l'ai dit, sous un nombre inidentifiable de pseudonymes. Fier d'être catégorisé dans les auteurs de romans de gare, Dard n'en rêvait pas moins d'un Goncourt ou d'une Pléiade. Mais peut-être avait-il pris trop tôt trop de liberté. Disparu en 2000, il n'aura pas vu les colloques en Sorbonne consacrés à son œuvre, ni beaucoup des articles universitaires analysant sa construction d'un langage unique. Et si l'on peut se réjouir que la recherche décortique ses néologismes, on peut aussi, pour conclure, s'en remettre à sa propre exégèse, plus prosaïque. Le néologisme, c'est le langage qui fait ses besoins. Merde alors.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Frédéric Dard, nous avons le plaisir d'accueillir l'écrivain Éric Bouillet. Bonjour Éric.
Bonjour.
Bonjour Éric Bouillet, le temps de trouver mes mots et on parle de Dard avec vous dans un instant.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre et nos personnages qui ont inventé des mots continuent. On parle de Frédéric Dard avec notre invité Éric Bouillet.
Oui, Éric Bouillet, vous êtes écrivain, fin connaisseur de Frédéric Dard, auquel vous avez consacré un dictionnaire amoureux de San Antonio paru chez Plon. Inventer sa propre langue, c'est le rêve de tout écrivain. Frédéric Dard l'a fait. On peut la reconnaître en une phrase, en quelques mots, sa langue ?
Alors, il y a deux langues, en fait. Il y a la langue de Frédéric Dard, qui est un français très classique, une centaine de romans sous son nom ou sous pseudonyme. Et puis à côté de ça, il y a les San Antonio. Et il y a la langue de San Antonio qui n'a rien à voir. C'est une œuvre bipolaire ou bicéphale. Et cette langue, effectivement, qui a quand même évolué, elle a commencé, comme vous disiez, en 49 et elle s'est poursuivie pendant 50 ans. Elle a évolué. Au début, on trouve beaucoup d'argot, parce que, comme vous le disiez, il aimait ça, et il lisait Peter Chenet, et il s'était rendu compte que ça avait beaucoup de succès. Et puis, petit à petit, il s'est trouvé très à l'étroit, même dans l'argot, et il lui a fallu inventer des mots. Et il en a inventé de plus en plus, jusqu'à inventer une langue. Et effectivement, quand, dans un extrait, il n'évoque pas les personnages de la saga, on peut reconnaître assez facilement que c'est du San Antonio et rien d'autre.
Oui, et notamment Berrurier, il a un langage très particulier quand même, on identifie tout de suite son champ lexical.
Oui, c'est celui avec Berthe.
Avec Berthe, c'est vrai.
C'est les deux qui ont un langage le plus fleuri. C'est sûr, et qui va se désarticuler de plus en plus au fil des années pour devenir quelque chose même d'assez complexe. Il faut avoir l'habitude pour comprendre.
Et c'est pour ça que la notion de roman de gare, livre facile, il faut rentrer dans l'univers San Antonio, il y a quand même beaucoup d'expressions. Il faut passer un petit peu son diplôme de San Antonio avant de les comprendre parfaitement tous. Il y a des références et des mots assez étonnants.
Mais c'est le fait des grands auteurs, des géants de la littérature. Mmh. Je crois que vous venez de parler de Rabelais. Rabelais, ça se mérite.
Oui.
Céline, ça se mérite aussi. Oui. Et les grands auteurs se méritent, et c'est pour ça qu'il en fait partie.
Mmh. Oui, parce qu'il avait un style, San Antonio.
Oui, plus que la langue, c'est un style, quelque chose que l'on reconnaît, qui est identifiable.
Vous racontez que Frédéric Dard, avec un brin de roublardise, évidemment, disait, il aime à nous dire qu'il a fait carrière avec un vocabulaire de 300 mots, ayant inventé les autres. C'est une jolie phrase, mais est-ce que c'est pas tout à fait vrai?
Non, c'est même complètement faux. Il a passé son enfance, non pas à Lyon, c'est dans les années 30, à 10-12 ans qu'il arrive à Lyon, mais dans le Dauphiné et à Bourgoin. Et une grande partie de son enfance avec sa grand-mère, qui était surnommée Madame Larousse et qui était une boulimique de lecture. Elle a entraîné son petit-fils dans cette folie de lecture. On dit qu'à 12 ans, il avait lu Stendhal, Dostoïevski et Les Pieds Nickelés aussi, parce qu'il ne passait pas à côté de la littérature populaire. Donc, il avait un vocabulaire extraordinaire. Mais il était quand même à l'étroit, même avec ce vocabulaire extraordinaire. Et ça ne lui suffisait pas.
quand on lit, et même San Antonio, parce qu'on dit qu'il y a un style San Antonio, mais même parfois il y a des espèces d'incises dans San Antonio où il se met à parler, il se met à écrire, on dirait du Flaubert. Enfin, on sent quelqu'un qui a une maîtrise totale du style qu'il veut, il peut passer d'un style à l'autre. Est-ce qu'il aurait rêvé d'être un grand écrivain au sens, il a été un grand écrivain, mais au sens plus classique du terme, c'est-à-dire sous son vrai nom, Frédéric Dard, sans passer par San Antonio? Est-ce que parfois il a nourri ce regret?
Mais toute sa vie, il a nourri ce regret. Il a voulu arrêter 10 fois les San Antonio. Eh, écoute. 10 fois. Parce qu'il avait, non pas des messages, il ne faisait pas passer de messages, ce n'était pas un moraliste, mais il avait une vision de la condition humaine, une vision de la société. Il a traqué la bêtise, pour ne pas dire la connerie humaine, pendant 50 ans. Et il avait peur qu'on ne retienne des San Antonio que le langage, la truculence, les scènes de sexe qui sont joyeuses. Mais il était à l'étroit dans les San Antonio, il était à l'étroit. Et c'est seulement Claude Durand, le patron de Fayard, qui, à la fin de sa vie, l'a rassuré en lui disant un jour, il voulait racheter Fayard, les droits des San Antonio. Il lui a dit un jour, Frédéric Dard, vous n'êtes pas un écrivain, vous êtes un très grand écrivain. 2 ans après, il est mort. Il a eu cette parole qui a été peut-être la seule qui l'a convaincu qu'effectivement, il avait une carrière.
Il a laissé une œuvre et qu'il laissait une œuvre.
Oui, et qu'il laissait une œuvre. Oui. Pourtant, beaucoup de gens l'avaient repéré. Déjà, Cocteau, en 60, Cocteau avait des phrases dithyrambiques pour parler des San Antonio. Puis après, toute l'intelligentsia y est passée. Et puis, comme vous disiez, les universitaires également.
Mais justement, puisqu'on parle des inventeurs de mots cet après-midi dans Historiquement Vos, il a inventé une expression dans un titre, c'est la rate au courbouillon. Je crois que c'est le 50. Moi, je ne savais pas qu'on lui devait la paternité de cette expression. Il se met la rate au courbouillon.
Oui, il a inventé cette expression qui a été reprise dans le langage populaire. Vous savez, c'est comme Coluche qui a sorti des expressions comme ça qui ont été reprises, puis qui vont se perdre au fil des années. Alors, il y a des titres des San Antonio, mais il y a aussi des expressions qu'il a inventées. Of course pour of course.
Ah, of course, je le mets tout le temps dans mes SMS et les gens me disent, mais t'as un problème d'écriture automatique. Je dis, non, c'est San Antonio.
Ou lycée de Versailles pour vice versa. Je pourrais vous en citer 50.
C'est fou, c'est des choses qu'on utilise dans le langage court.
Oui, encore.
Et les titres, par exemple. Oui. Alors, c'est vrai qu'il avait une imagination incroyable.
Donnez-nous vos titres préférés, s'il y en avait 5.
C'est que des titres qu'on ne peut pas dire à la radio.
Ah, ici, on peut tout dire dans Historiquement Vos.
C'est de l'histoire, Eric Bouillet.
Oui. Ah, pardon.
C'est bon.
Il y a beaucoup de jeux de mots comme Sucette Boulevard. Ouais. J'adore ce genre de jeux de mots. Et avec les titres, on peut écrire tout ce qu'on veut avec les titres de San Antonio. Un jour, j'ai écrit à Thierry Fréret, qui faisait la météo à l'époque. Je lui ai écrit une lettre sur la météo. Sur une page, j'ai utilisé 30 titres de San Antonio. Et c'était cohérent. C'est ça qui est formidable.
En tout cas, je renvoie les lecteurs, les amoureux de la langue de San Antonio et de Frédéric Dard, évidemment. Ils sont très nombreux. À votre dictionnaire amoureux de San Antonio, paru chez Plomb. Merci Eric Bouillet d'être venu nous voir.
Merci beaucoup.
Je vais dire quand même un titre du San Antonio que je préfère. Je ne sais pas si ça s'applique à aujourd'hui. C'est Les cochons sont lâchés.
Voilà. C'est parfait.
Merci Eric Bouillet. Tout est dit.
Europe 1, historiquement vôtre.
Aujourd'hui, Historiquement Vôtre est donc consacré à ces personnages de l'histoire qui ont inventé des mots. Après Rabelais et Frédéric Dard, vous avez, Mathieu, la délicate mission de ramener quelques jeunes vers Europe 1, évidemment, à travers le portrait de notre troisième personnage du jour qui est vivant.
Oui, et avec Aya Nakamura, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, ce n'est pas quelques jeunes que je vais ramener à Europe 1 dans quelques minutes. C'est par wagons entiers qu'ils vont affluer de Skyrock, du Move, de Fun Radio. On va saigner les musicales, Stéphane, parce que les jeunes adorent Aya Nakamura et que je vais leur révéler des trucs de gueudin à son sujet.
Quoi ça ?
Ça veut dire qu'on va apprendre des choses.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont inventé des mots. Après Rabelais et Frédéric Dard, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, bon, à 99% vrai, d'une artiste qui, elle, en a marre quand on lui dise qu'elle invente des mots. C'est l'idole des jeunes, Aya Nakamura.
Cet après-midi, Stéphane, je m'adresse spécifiquement à ceux de nos auditeurs qui sont comme moi entre deux âges. Amis auditeurs entre deux âges, il y a quelques signes comme ça qui ne trompent pas et nous informent que notre jeunesse est indubitablement derrière nous. Quand tu réalises que tu es obligé de t'asseoir pour mettre tes chaussettes, quand tu découvres devant le miroir de la salle de bain que des poils poussent dans tes oreilles et quand, à travers ces poils, dont le surgissement incongru t'a déjà partiellement anéanti, tu entends...
Oh, dadja, y a pas moyen, dadja.
Si le service com d'Europe 1 m'avait demandé mon avis, parmi les grandes questions existentielles qui composent notre dernière campagne de pub, j'aurais ajouté celle-ci. Est-on obligé d'aimer Aya Nakamura? Les jeunes aiment Aya Nakamura, les vieux qui veulent rester jeunes aiment Aya Nakamura, Libé et les Inrock, qui cela dit correspondent à la deuxième catégorie citée, adorent Aya Nakamura. Pourtant, la seule fois où on a diffusé, nous, un des titres dans notre émission d'Aya Nakamura, Stéphane a ouvert de grands yeux et s'est exclamé.
On passe vraiment de la daube. Hein.
Alors, je sais que quand Elvis a débarqué, les vieux ont dit que c'était affreux, inaudible, que c'était pas de la musique. Je sais que les premières chansons de Brassens sont choquées. C'est pourquoi, contrairement à Stéphane, je ne me permettrai pas d'utiliser le mot daube pour qualifier la musique d'Aya Nakamura. Simplement, je dois avouer que cette musique, certainement très intéressante, ne me touche pas. Un peu comme si c'était des ultrasons que je ne serais pas capable d'entendre. Et c'est dommage, car d'après ses exégètes, les textes d'Aya Nakamura sont passionnants, non pas tant parce qu'elle invente des mots, mais parce qu'elle les pioche dans l'argot des jeunes et parvient à les faire sonner différemment. « Florilège dans ma bouche », c'est pas le titre d'un porno amateur que j'aurais tourné en scred, hein. Juste un medley que je vous fais comme ça au débeauté. « Jolie nana recherche jolie Joe ». Comment on fait ? Je suis pas très mytho. Genre, en Katchana baby, tu dead ça. Blablabla de la pookie, ferme la porte, t'as la pookie dans le sac. À la première écoute, difficile de comprendre tout ce que raconte Aya Nakamura. Le problème, c'est qu'à la deuxième écoute, non plus. Hein. Je ne parle pourtant pas comme une gogole, s'insurge Aya. Il y a des rappeurs, ils inventent bien pire. Ce qui étonne, c'est le fait que je sois une fille. Alors ça, peut-être, même si, crois-moi Aya, quand Stéphane entend... Je suis gang, game, boy, ne joue pas bang. Son étonnement n'a rien à voir avec le fait que tu sois une fille. C'est mon langage dans la vie de tous les jours, continue Aya, qu'il va falloir, je sens, arrêter de saouler avec ça, car elle s'emporte facilement, notamment contre ceux qui, non contents d'inventer des mots, se permettent carrément d'inventer des noms. Bisous à Nico Saliagas.
Vous l'avez chanté à la maison ? Voici Yaka Nakamura.
Yaka, qui évidemment n'avait pas manqué de tacler Nika Saliagos. Alors, cet après-midi, chers collègues, vous aussi entre deux âges, plutôt que d'ouvrir de grands yeux en écoutant Jaja, en se disant que la variété c'était mieux avant, je vous propose une leçon de Nakamura. Partons à la découverte de ce vocabulaire qui nous intrigue. Commençons par Pookie. Bla, 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 Pookie. Alors, Pookie n'est pas un néologisme, hein, mais un mot d'origine rom qui veut dire poucave, c'est-à-dire, pardon Stéphane, balance, ou encore rapporteur, comme on disait dans La Guerre des Boutons, le dernier film avec des jeunes que vous ayez vu. Oui. Dans le dernier album d'Aya Nakamura, on découvre aussi des mots comme chop, qui signifie voiture, ou lossa, salaud à l'envers. Donc, pour dire salaud, ne touche pas à mon automobile, Stéphane, comment doit-on dire ?
Lossa, touche pas ma chop.
Où va-t-elle chercher ces mots étonnants ? Eh bien, dans son quotidien, Stéphane, je cite, « J'écris tous mes textes moi-même. » En même temps, ce serait douter que ce n'était pas d'Abadi. Hein. « La plupart sont autobiographiques. Quand je discute avec quelqu'un, une phrase peut m'interpeller parce qu'elle sonne bien. Je la note et elle me sert de point de départ. » Ça paraît simple comme un tuto de mousse au chocolat sur Marmiton et pourtant, sa chaîne YouTube compte plus de 5 millions d'abonnés. C'est tout simplement l'artiste française la plus écoutée dans le monde. Sur Spotify, Aya Nakamura, c'est 12 millions d'auditeurs chaque mois. Vanity Fair l'a classée parmi les 50 Français les plus influents en 2019 avec Emmanuel Macron, Leila Bekti et Tahar Rahim. Parmi ses tubes les plus célèbres, évidemment, Oh Jaja, il n'y a pas moyen Jaja. Je suis pas ta catin, Jaja, genre en Katchana baby, tu dettes ça. Mais qui est donc ce Jaja de qui elle n'est pas la catin ? Elle répond, c'est quelqu'un que j'estimais beaucoup et j'ai entendu qu'il faisait circuler de fausses rumeurs sur moi. Au lieu de me confronter à lui, et comme les filles sont toujours considérées comme des menteuses dans ce genre de situation, j'ai préféré écrire le titre que vous connaissez. Je ne lui parle plus, mais je suis pas sûr que ça lui ait beaucoup plu. Comme la plupart de ses chansons, Jaja est relativement indéchiffrable pour les plus de 40 ans, voire carrément imbitable pour les plus de 50. Heureusement, Stéphane, un chanteur belge, a eu l'idée d'en faire une reprise en langage soutenu afin que les gens comme nous puissent comprendre de quoi ça parle.
Oh Jean-Jean, ça ne va pas Jean-Jean, je ne suis pas votre catin Jean-Jean, non, la levrette vous la vide dans vos rêves.
La levrette vous la vide dans vos rêves, tout s'éclaire, on comprend mieux dès lors l'engouement suscité par Aya Nakamura, jeune femme d'origine malienne qui grandit à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, fan de télécrochet, elle se rêve chanteuse et souhaite se lancer contre la vie de tous, y compris de sa sœur. Elle me disait « Arrête avec ta chanson, elle est trop nulle, ça m'a piqué, ça m'a donné la rage, à l'arrivée tout le monde n'avait pas le même avis qu'elle ». Et oui, sur Facebook, la chanson en question « Karma » devient virale, Aya Daniako devient donc Aya Nakamura, nom inspiré d'un personnage de la série Heroes. Exit donc le projet de devenir nageuse, car oui, elle avait des prédispositions et la fédé de natation l'avait même contactée. Mais non, trop la flemme, expliquera Aya qui précise, je cite, « Je commençais à aimer le maquillage et c'est relou d'être tout le temps mouillée ». Plus tard, elle hésitera également avec le mannequinat, mais pas longtemps, car c'est à 19 ans qu'elle poste ses premières chansons sur les réseaux sociaux et ça mord immédiatement. En 2015, le titre « Brisé » diffusé sur YouTube lui permet de lancer sa carrière. 2016, une maison de disques lui propose un contrat. Elle sort son premier single Super Héros avec le rappeur Gradure, puis son premier album Journal Intime, et 2018, c'est la consécration avec son deuxième album baptisé Nakamura. En toute simplicité, l'été sera Jaja. Elle sort très vite un troisième album baptisé, devinez Stéphane, le premier Nakamura, le deuxième
Aya.
Aya, mais oui, tout se tient. À partir de là, elle devient un phénomène, même à l'international, hein, il y en a assez peu. Maradona, lui. Maradona se fout d'Aya Nakamura, il est mort. Mais Madonna lui rend hommage sur Instagram en postant une vidéo de ses filles chantant Jaja. Rihanna danse en soirée à Londres sur Jaja. Will.i.am l'encense dans la presse. Et en France, je vous laisse imaginer. Alors en France, les réactions sont plus nuancées. Ben c'est la France, hein. Tout ce qui marche forcément inquiète. Stéphane Bern déclare que les chansons d'Aya Nakamura le défrisent. Sick. Notre ami, le réalisateur Olivier Marchal, va plus loin dans l'analyse en la comparant, je cite, à une tenancière de bar à hôtesse. Sur les réseaux aussi, la spontanéité sans filtre d'Aya génère parfois malgré elle des bad buzz, comme en novembre 2020. Après les MTV Music Awards, M. Pokora a été élu meilleur artiste français de l'année contre Aya Nakamura, qui tweet un brin courroucé. Il a gagné pour quel son ? Rien contre lui, mais il n'est même pas dans le top 10. Lors du Téléthon aussi, on se souvient d'un moment un peu embarrassant où, interrogée par Nagui, elle oublie un peu les myopathes pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, à savoir sa carrière.
Chaque jour, je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et ça me booste. Voilà, merci encore.
Et pour le Téléthon, si vous avez aussi un message à passer à vos fans pour qu'ils soutiennent le Téléthon.
Je vous invite à appeler le 3637 pour stopper...
Il faut arrêter les maladies.
Il faut stopper l'interview là, Nagui. Oui, petit malaise monté en épingle par des internautes qui ont vu la marque d'un ego totalement démesuré, d'un manque d'empathie. Il faut relativiser toujours. Hein. Aya Nakamura n'est pas la première artiste à gaffer et à oublier des gens en fauteuil au Téléthon.
Tout le monde
Heureusement pour François Feldman, Twitter n'existait pas à l'époque. En tout cas, Aya Nakamura, c'est certain, ne laisse personne indifférent. Elle casse les codes, et pas seulement dans ses textes, dans ses clips aussi, qu'elle aime tourner dans des lieux historiques, Stéphane. Le clip de Pookie est ainsi tourné au château de Fontainebleau, celui de Brisé dans le jardin du Luxembourg, devant le Sénat. Ça se trouve, si on zoome, on voit Gérard Larcher qui fait un booty shake dans son bureau à l'arrière-plan. Ça serait pas étonnant, comme nous dit parfois Stéphane en antenne.
Monsieur Larcher n'est pas le dernier. Hein.
Le dernier pourquoi ? On ne sait pas. Stéphane ne va jamais plus loin parce qu'il se souvient soudain que les micros tournent. Allez, pour vous faire plaisir, Stéphane, on se réécoute Jaja, mais en entier cette fois.
Ah non, vous voulez me tuer.
Putain de Dieu, vous n'avez même pas de poils dans les oreilles. Et puis, on sait que vous l'aimez bien au fond, Aya Nakamura. Vous l'avez croisé aux Victoires de la Musique. Vous étiez ravi, même si en coulisses, avant le direct, vous étiez visiblement un peu inquiet.
Mais elle a fait son test PCR.
Oui, elle a fait son test, Stéphane, ne vous inquiétez pas. Elle est clean.
Mais quel affreux Jojo vous êtes. Merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, ces pionniers du langage qui inventaient des mots pour remonter maintenant aux origines de tout ce qui aujourd'hui fait notre quotidien.
Et notre quotidien, votre quotidien Stéphane, c'est avant tout l'aubergine et son précieux caviar, Olivier, n'est-ce pas ?
Oui, spéciale dédicace pour Stéphane et qui aime les aubergines bien huilées. Ben on va prendre des aubergines et on va les huiler, figurez-vous.
Un plat qui ne vient pas forcément de Grèce, contrairement à ce que croyait Stéphane. Le mot de la fin, c'est dans mes cordes, oui. C'est dans mes cordes de vous raconter l'histoire de ce mot.
C'est pas dans mes cordes, ça veut dire j'ai pas les compétences pour.
Je suis sûr que ça vient de la boxe.
On va voir.
Mais je suis sûr d'avoir tort vu votre regard. D'abord, on remonte aux origines d'un médicament vraiment précieux entre tous au lendemain de soirée, l'aspirine avec David Castello-Lopez.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui dépoussière l'histoire et où on écoute même Aya Nakamura, c'est vous dire si on est jeunes, continue avec David Castello-Lopez. David, chaque jour vous remontez aux origines d'une invention souvent utile, particulièrement aujourd'hui, l'aspirine.
L'aspirine. Je vous préviens, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par vous parler de quelque chose et vous allez vous dire non mais ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Hein.
Une fois n'est pas coutume, c'est ça que vous venez de dire.
Et après vous verrez que si en fait c'est un rapport. C'est vraiment un truc que je fais jamais. Hein. D'habitude je rentre dans mon sujet de plein fouet.
Oh
mais là voilà.
Digression quand tu nous tiens.
Petit détour. Bon, l'aspirine. Un jour j'ai offert un chat à mon père. Voilà, c'était un sacré de Birmanie, hors de prix, et c'était vraiment le chat le plus nul de l'histoire des chats. Il était associable, désagréable, névrosé, et en plus il avait une santé lamentable.
Comme tous les sacrés de
Birmanie. Il a chopé le sida des chats, puis une autre maladie, puis au Portugal il s'est fait attaquer par des chats portugais de la campagne qui devaient le trouver snob et qui l'ont à moitié déchiqueté. Et puis il est mort au bout d'un an en ayant coûté, en plus de son prix d'origine, une petite fortune de vétérinaire. Voilà, une courte vie de misère et de souffrance qui n'a apporté de joie à personne. Et ce chat,
il s'appelait Aspirine.
Voilà. Oh, voilà, je vous avais dit, sur vos pattes.
Je vous avais dit qu'il y avait un rapport. Et depuis, cette histoire de chat, à chaque fois que je vois un tube de UPSA, voilà, j'en ai apporté un ici, d'Aspirine, eh bien, je pense à ce chat qui s'appelait Aspirine et ça m'énerve un peu. Mais je me calme toujours parce que avant de désigner un chat nul, l'aspirine, ça désigne une molécule super bénéfique et au nom délicieux, ouais, l'acide acétylsalicylique. Une beauté de mot, vraiment, hein, avec sept syllabes, plein d'assonances, d'allitérations, trop bien. Alors, une partie de cette molécule, l'acide salicylique, il est présent à l'état naturel dans plein de plantes, le jasmin, les trèfles, le saule, les petits pois. Et c'est émouvant parce que les êtres humains ont remarqué très très tôt que quand ils mangeaient certaines de ces choses, le saule en particulier, ils se sentaient mieux. Les Sumériens, ils se soignaient déjà avec du saule. Alors, ils ne savaient pas que le truc actif dedans, c'était l'acide salicylique, mais ça marchait. Alors, bien sûr, ce qui s'est passé depuis le temps des Sumériens, c'est qu'on a trouvé un moyen d'avoir juste les trucs bons à l'intérieur du saule, sans avoir à manger du saule. En 1828, il y a un Allemand, encore un, qui est arrivé à extraire l'acide salicylique du saule. Il a appelé ça la salicine. En 1876, il y a une étude qui a prouvé définitivement que la salicine, c'était super efficace contre la fièvre et les rhumatismes. Mais les trucs, c'est qu'en l'état, la salicine, ça provoquait des effets secondaires un peu naze, c'est pour la nausée, vomissement, et quelquefois même le coma. Voilà, donc ça fait cher payer la baisse des maux de tête. Mais en 1897, la société Bayer en Allemagne, elle a découvert que quand on rajoutait de l'acétyl à l'acide salicylique, eh bien on avait les avantages de l'acide salicylique sans les inconvénients irritants et le coma. Et en 1899, Bayer a commercialisé le premier tube d'aspirine. Alors pourquoi aspirine ? Eh bien, le A, c'est le A de acétyl. Spire, ça vient de spirea, qui est le nom latin d'une plante qui s'appelle en français la reine des prés et de laquelle on peut facilement extraire l'acide salicylique. Et in, c'était un suffixe qui était un peu cool à la mode à l'époque pour donner des noms aux médicaments, hein, l'insuline, l'hexaquine, la quinine et donc l'aspirine. L'aspirine, ça a cartonné immédiatement et en 1950, elle est même rentrée dans le livre Guinness des records comme l'antidouleur le plus vendu au monde. Alors aujourd'hui, elle est concurrencée, surtout par l'ibuprofène et le paracétamol, mais c'est quand même encore considéré par certains comme un médicament miracle, puisqu'on a noté que les gens qui prenaient de l'aspirine régulièrement avaient moins de risques de cancer et moins de risques de crise cardiaque, en plus du fait, bien sûr, que c'est bon pour la douleur en général.
Et parce que ça fluidifie le sang.
Ça fluidifie le sang, et tout ce qui fait qu'il ne faut pas le boire, il ne faut pas en prendre quand on est enceinte, par exemple, ou hémophile. Et tout ça, à mon sens, ça compense vraiment le souvenir du chat tout pourri qui porte le même nom que le médicament.
Il était blanc, votre chat.
Il était blanc.
Aspro en grec veut dire blanc.
Ah, peut-être qu'il y avait un petit
parce
idée
que
avec ça.
Vous avez remarqué, on dit toujours d'une aspirine, tiens, prends un aspro.
Alors moi je dis pas ça, mais c'est vrai que je l'ai entendu.
Qui dit ça? On dit ça
de mon temps. De mon temps.
Si donc on n'a pas de tube d'aspirine sous la main, on peut se ruer sur des petits pois. Moi c'est ce que je retiens de cette chronique, j'essaie de voir les aliments.
Du saule.
Se ruer sur le saule, c'est quand même plus difficile à cuisiner. Je cuisine moins bien le saule que les petits pois.
De saule.
Et je pense qu'il va falloir vraiment manger beaucoup de saule.
Les reines des prés aussi.
Et les reines des prés pour avoir le même effet que 1000 mg d'aspirine.
En tout cas c'est passionnant.
Merci
David. On retrouve les origines en podcast et sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Passionnant aussi la chronique d'Olivier Pouls qui arrive sur
l'aubergine.
L'aubergine et le caviar d'aubergine, un caviar accessible. On l'attendait depuis longtemps.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Partons maintenant sur les rives de la Méditerranée avec Olivier Pouls, notre explorateur gastronomique, et on remonte le temps à l'origine de l'aubergine et de son caviar.
Alors si son caviar effectivement est né sur les bords de la Méditerranée, on ne peut pas préciser dans quel pays exactement, parce que probablement au même moment dans beaucoup d'endroits de la Méditerranée, on s'est mis à élaborer cette recette avec quelques variantes. En revanche, l'aubergine n'est pas, elle, un fruit, puisque c'est un fruit d'un point de vue botanique et un légume d'un point de vue culinaire, n'est pas un légume originaire du bassin méditerranéen. Il est originaire du sud de l'Inde où l'aubergine était cultivée depuis 4000 ans. Et d'ailleurs, il n'en existait à l'époque qu'une seule variété et qui était une variété qu'on peut encore trouver d'ailleurs, qui est une variété blanche et non pas avec cette couleur que l'on connaît maintenant, qui est plus classique, une couleur violette, qui est arrivée beaucoup plus tard, qui n'est arrivée qu'au 18e siècle et c'est une variété hybride. Alors, on a pu retracer la route de l'aubergine. Donc, je vous dis, elle part du sud de l'Inde, elle arrive en Perse vers le 4e siècle. Elle est ensuite diffusée par les Arabes vers l'ouest au 9e siècle. Elle arrive en Europe par l'Espagne. Et ce sont les Juifs espagnols, puisqu'il y a beaucoup d'aubergines dans la cuisine juive, ce sont les Juifs espagnols qui vont se charger de la propager un petit peu partout et surtout de la faire apprécier et d'en vanter les mérites culinaires, parce qu'en France, pendant longtemps, elle est considérée comme toxique et elle n'est cultivée que comme plante d'ornement. Donc c'est beaucoup plus tard, ça partir probablement du XVIe ou XVIIe siècle, qu'on va vraiment se mettre à manger de l'aubergine en France. Alors une petite particularité sur ce caviar d'aubergine, qui est une des nombreuses recettes qu'on peut faire avec l'aubergine. Pourquoi le caviar d'aubergine? C'est quand même étonnant.
Mais pourquoi ce nom?
Alors, je n'ai pas trouvé d'explication vraiment probante.
Passez des coups de fil, faites comme
David. Il y en a plusieurs. Il y a l'idée qu'une fois que l'aubergine a été écrasée à la fourchette, il en reste comme des espèces de petits grains qui pourraient laisser penser que c'est du caviar. Non, ça n'en est pas. Il y a une autre explication qui dit que les Russes ont pendant longtemps, il y a très longtemps, fait du caviar d'aubergine et qu'il s'agirait d'une erreur de traduction. Et un traducteur aurait compris aubergine préparée en caviar et en fait il aurait dit caviar d'aubergine. Bon, bref, il y a une chose qui est certaine, c'est que le mot caviar, normalement et légalement, ne peut être employé que pour les œufs d'esturgeon, à une seule exception près, c'est l'aubergine. Parce qu'il y a un usage... Voilà, exactement, sinon, il y a une dérogation. Mais sinon, vous avez la répression des fraudes qui vous tombe dessus, et vous n'avez pas le droit d'utiliser le mot caviar pour autre chose en principe que du caviar d'aubergine. Et ça, c'est dû au fait que depuis très longtemps...
Ils ont déposé le nom caviar ?
Alors, c'est pas déposé de manière à l'INPI classique, mais dans les usages aujourd'hui commerciaux en France et de commercialisation des produits, en principe, vous n'avez pas le droit d'utiliser le mot caviar autrement que pour du caviar d'aubergine. Alors pour le caviar d'aubergine, la recette elle n'est pas très compliquée et je vais même vous en donner ma petite astuce qui, je trouve, le parfume de manière, vous allez voir, naturelle, assez intéressante. Vous prenez deux belles aubergines, alors classiques, violettes, vous les mettez sous le grill du four comme ça, sur une plaque, et vous allez les brûler. Il faut que la peau brûle, noircisse et soit cramé en quelque sorte. Parce que ça va parfumer, ça va donner un petit côté fumé à la chair de l'aubergine.
Mais on ne mange pas ce qui est brûlé.
Vous enlevez la peau.
Voilà, vous la retournez régulièrement pour qu'elle soit bien cramée de tous les côtés. Une fois que le cœur est devenu moelleux, c'est à peu près 30-35 minutes, 40 minutes si elles sont vraiment grosses. Vous enlevez la peau, évidemment. Vous enlevez tout le côté brûlé qui est nocif. À l'intérieur, ce n'est pas brûlé. Et à l'intérieur, c'est diffusé les arômes du fumé et du brûlé. Et on a vraiment l'impression que les aubergines ont été passées au fumoir. C'est assez extraordinaire. Vous les écrasez tout simplement avec un demi-jus de citron, parce que l'aubergine a tendance à noircir très vite. C'est une chair qui s'oxyde. Un peu de sel, un peu de poivre. Moi, je rajoute une petite touche de coriandre et c'est terminé.
Et c'est terminé, on passe à
table. Et ça, c'est la recette du baba ganoush. Parce que les Égyptiens appellent ça le baba ganoush. Et on fait cramer d'abord l'aubergine.
On fait brûler l'aubergine.
Caviar d'aubergine.
Et comment on fait pour que le reste ne crame pas? C'est vraiment, il faut mettre très proche du grill.
On le met très proche du grill, mais en fait, la peau va protéger l'intérieur. Ouais. Et l'intérieur ne va pas brûler.
Ça donne faim. Merci Olivier Pouls.
Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes évidemment sur le site europe1.fr. Quant à Stéphane Bern, il se prépare à nous livrer son mot de la fin. L'histoire d'une expression, aujourd'hui, c'est dans ses cordes.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
L'heure est venue d'écouter notre maître à tous, Stéphane Bern, qui nous livre le mot de la fin chaque jour, l'histoire d'une expression qu'on utilise sans savoir d'où elle vient.
Oui Mathieu, si dans Historiquement vôtre, vous m'aviez demandé tous les jours de venir vous faire une recette de cuisine, je vous aurais prévenu. Je vous aurais dit, Mathieu, c'est pas dans mes cordes. C'est plutôt dans celle d'Olivier Pouls, qui fait ça très bien. Mais au fait, c'est dans mes cordes. D'où vient cette expression?
Alors je sais que être dans les cordes, c'est à la boxe, ça veut dire qu'on est KO. Mais c'est dans mes cordes, d'où ça vient? Un rapport avec les cordes du violon, peut-être?
Non, pas loin. Ce ne sont ni les cordes d'un ring de boxe, ni celles du violon, mais plutôt dans les cordes des cordes vocales. Au XIXe siècle, pour s'assurer qu'un morceau de musique était interprétable par un chanteur, on se demandait si la partition était dans les cordes de l'artiste, pour savoir s'il était capable de l'interpréter. J'évoque ici plutôt les musiques classiques, les barytons, les sopranos. D'ailleurs, concernant les sopranos, sopra en italien veut dire au-dessus. Ça ne veut pas dire que ce chanteur a plus de talent, juste que la tessiture est au-dessus des altos, par exemple. En 1832, on trouve dans le dictionnaire de l'Académie française le mot « corde » comme étant synonyme de « note de musique ». Aujourd'hui, on imagine très bien Maître Gims chanter du Carla Bruni ou Christophe Willem reprendre du Johnny. Ça sera plus une question de ressenti que de pure technique. Tous les répertoires semble être dans les cordes de tous les interprètes. Mais c'est vrai que pour une Nathalie Dessay, par exemple, qui est une de nos grandes chanteuses, maintenant elle fait du théâtre, mais elle a été une grande chanteuse d'opéra, on lui disait qu'elle chantait en dehors de ses cordes vocales, puisqu'elle forçait un peu pour... Il y a des rôles qui ne sont pas dans les cordes des mezzo-sopranos ou des sopranos. En Espagne, comme en France d'ailleurs, on dit « être à la portée ». Encore une notion musicale, la portée de notes. Au Brésil, on dit « c'est ma plage » pour dire qu'on s'y sent bien. Oh, comme je les comprends. En Suède, on dit « j'y suis bien comme dans la rue de maman ». C'est vrai, quoi de plus rassurant en effet que la douceur d'une mère. C'est dans mes cordes, ça veut dire être capable. Ça me rappelle une citation de Michel Audiard, « un gentleman ». C'est un type qui est capable de décrire Sophia Loren sans faire de gestes. Il a tout à fait raison, non ?
Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Il était consacré à ces personnages de l'histoire qui ont eu l'audace d'inventer des mots, en tout cas de jouer avec. Alors Stéphane, qui de Rabelais, Frédéric Dard, Aya Nakamura vous a le plus impressionné par son imagination ou sa force créatrice?
Écoutez, Aya Nakamura.
Et le prix du plus grand faux cul est attribué à Stéphane Bern pour sa tentative de jeunisme dans Historiquement Vôtre.
Je plaisante, mais c'est vrai que Rabelais, je ne mesurais pas avant le récit du nombre de mots qu'il avait introduits dans la langue française.
Réécoutez en podcast le récit de Stéphane sur Rabelais, effectivement, vous serez tout étonné. Je sais pertinemment, Stéphane, que vous n'êtes pas un pookie, mais par amitié pour moi, vous accepterez de nous donner le programme de demain.
Oui, demain, une colère manifeste.
Je vous sens en colère, effectivement.
Mais non, ou moins qu'elle, en tout cas. On réunit trois badass du féminisme qui ont fait part de leur colère dans un manifeste. L'anglaise Mina Loy, Valérie Solanas et son célèbre Scum Manifesto, où elles en prenaient violemment aux hommes.
Et Virginie Despentes et son fameux King Kong théorie. Bref, demain, on fait tout sauter, Stéphane.
Oh, j'ai peur.
Ça va bien se passer. À demain, Stéphane, à demain, les amis. Tout de suite, c'est Europe Soir avec Thierry Dagiral.